Chapitre 18. Ilium.
C'est la nuit que la ville, Ilium, Troie, la cité de Priam, Pergame, est la plus belle. Ses murailles, dont chacune fait plus de 30 mètres de haut, sont éclairées par des torches, illuminées par des braséros placés sur les remparts, baignées par la lueur de centaines de feux de l'armée campant dans la plaine en contrebas. Troie est peuplée de tours altières, et la plupart d'entre elles sont éclairées jusque tard dans la nuit. Leurs cours sont inondées de lumière, leurs terrasses et leurs balcons réchauffés par l'éclat des chandelles, des feux et des torches. Les rues d'Ilium sont larges et solidement pavées. Un jour, j'ai tenté d'insérer mon couteau entre deux dalles et n'y suis point parvenu. Et la majorité d'entre elles sont éclairées par la lueur des maisons, par les torches fixées aux murs et par les feux de camp des milliers et des milliers de soldats alliés installés dans son enceinte avec leurs familles. À Ilium, même les ombres sont vivantes. Les jeunes hommes et les jeunes femmes des classes inférieures font l'amour dans les ruelles obscures et sur les terrasses enténébrées. Les chiens bien nourris et les chats rusés se glissent d'une ombre à l'autre, d'une venelle à une cour, rasant les murs le long des larges avenues pour ramasser les fruits et les légumes, les morceaux de viande et de poisson tombés par terre qui font leur provende, se hâtant ensuite de regagner la pénombre accueillante d'une ruelle, l'ombre propice d'un viaduc. Les habitants d'Ilium ne redoutent ni la faim ni la soif. Dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée des Achéens, des semaines avant que les nefs noires n'accostent, il y a plus de 9 ans de cela, ils ont fait venir des centaines de bovins et des milliers d'ovins vidant les fermes à 30 kilomètres à la ronde. De nouveaux troupeaux leur parviennent à intervalles réguliers, et les Grecs négligent le plus souvent de leur barrer la route. Fruits et légumes arrivent eux aussi sans difficulté, fournis par les mêmes fermiers matois qui approvisionnent également les Achéens. Si Troie a été édifiée sur cet emplacement il y a des siècles de cela, c'est en partie à cause de la gigantesque nappe aquifère qui se trouve en dessous. La cité dispose de 4 puits gigantesques qui jamais ne se tarissent. Mais, par acquis de conscience, Priam a jadis ordonné qu'un affluent de la rivière Simoïs, coulant au nord d'Ilium, soit détourné vers celle-ci au moyen de viaducs et de canaux souterrains faciles à défendre. Les Grecs ont davantage de difficultés à se procurer de l'eau douce que les habitants d'Ilium, pourtant théoriquement assiégés. La population d'Ilium, de loin la plus grande ville sur Terre à cette époque, a plus que doublé depuis le début de la guerre. Les premiers à venir s'y réfugier ont été les fermiers, les bergers, les pêcheurs et autres habitants plus ou moins nomades de la plaine environnante. Ils ont été suivis par les armées des alliés de Troie, les combattants proprement dit, mais aussi leurs femmes et leurs enfants, ainsi parfois que leurs parents, leurs chiens et leurs troupeaux. On trouve parmi ces alliés des personnes originaires de ce qu'on appelle la Troade, les Dardaniens et les habitants de villages et de régions plus éloignées d'Ilium, notamment les loyaux soldats vivant à l'ombre du mont Ida et dans la Lycie, une région située plus au nord. Ils ont été rejoints par les citoyens d'Adrastée et par les habitants des régions de l'Est, ainsi que par les Pélasges venus de Laris, dans le sud. D'Europe sont venus les Thraces, les Péoniens et les Sicones. Des rives australes de la mer Noire arrivent les Alisones, qui demeurent sur les berges du fleuve Alise et sont réputés issus du peuple des Chalybes, célèbres pour leur talent de métallurgiste. On entend dans la ville des chants et des jurons poussés par les Paphlagoniens et par les Zénètes, des peuples venant d'une région située encore plus au nord et qui sont peut-être les ancêtres des futurs Vénètes. Les Mysiens hirsutes viennent eux aussi du nord de l'Asie mineure. Dans leur rang, on trouve Enom et Nastès, deux guerriers avec lesquels j'ai passé quelque temps, et qui, à en croire Homer, se feront prochainement massacrer par Achille lors d'un combat si terrible que non seulement les os de la Scamandre en resteront écarlates durant plusieurs jours, mais qu'en outre, il s'y formera un barrage composé de tous les cadavres ayant péri de la main du fils de Pélée, notamment ceux de Nastès et d'Enom. Également présents, reconnaissables à leurs cheveux en bataille, à leurs armes aux formes étranges et à leur odeur, il y a les Phrygiens, les Méoniens, les Cariens et les Lyciens. Cette ville est énergique, vivante, festive, et elle vit 24 heures sur 24 ou quasiment. C'est la plus belle, la plus grandiose, la plus civilisée des cités de ce monde, toutes époques confondues. Ainsi filent mes pensées, tandis que je gis nu aux côtés d'Hélène de Troie, sur un lit dont les draps sont imprégnés de l'odeur du sexe et de notre odeur, tandis qu'une brise rafraîchissante gonfle les rideaux. Au loin, le tonnerre gronde, signalant l'approche d'une tempête. Hélène s'étire et murmure mon nom.
Oconberry.
Je suis arrivé en ville en fin d'après-midi, après m'être têtu depuis l'hôpital des dieux sur Olympos, sachant que la muse me chercherait dans l'intention de m'oxyre et que si elle n'y parvenait pas aujourd'hui, Aphrodite s'en chargerait dès qu'elle émergerait de sa cuve de soins. J'avais envisagé de me fondre dans la masse des soldats observant le dernier désengagement du jour, quelque part au sein de cette poussière quasi crépusculaire, Diomède continuait à massacrer les Troyens. Mais lorsque j'ai vu Hector regagner la ville en compagnie d'une escorte moins importante que d'ordinaire, j'ai adopté l'apparence d'un homme que je connaissais bien, Dolon, fantassin et habile éclaireur, promis à une mort prochaine aux mains d'Odysseus et de Diomède, et j'ai suivi le fils de Priam. Le noble guerrier a franchi les portes C, l'entrée principale de la cité, des portes de chêne massif, 10 fois plus grandes qu'un homme de la taille d'Ajax, se retrouvant aussitôt assailli par les épouses et les filles de Troie, exigeant des nouvelles de leurs maris et de leurs fils, de leurs frères et de leurs amants. J'ai vu le grand cimier rouge d'Hector s'avancer tel un navire sur des flots agités, une mer de visages anxieux qu'il dominait de la tête et des épaules, puis faire halte et s'adresser à la foule en ces termes.
« Priez les dieux, femmes de Troie !»
Cela dit, il tourna les talons pour foncer vers le palais de Priam. Certains de ses hommes protégèrent sa retraite en levant leurs lances, retenant les Troyennes en pleurs. 4 gardes l'ont suivi et je me suis substitué à l'un d'eux, les accompagnant en silence dans le splendide palais de Priam, vaste et orné de portiques polis comme l'écrit Homère. Adossés au mur, les ombres vespérales rampaient déjà dans les cours et les chambres à coucher. Nous avons monté la garde tandis qu'Hector s'entretenait brièvement avec sa mère.
« Ne m'offre pas de vin, mère, »
dit-il, écartant la coupe qu'elle venait de prendre des mains d'un domestique.
« Pas maintenant. Je suis trop las. Je craindrais de perdre le peu de force et de courage qu'il me reste pour la tuerie de ce soir. En outre, je suis couvert de sang, de poussière et de la crasse du combat. Jamais je n'oserais faire des libations à Zeus avec des mains aussi sales.
« Mon fils, » dit Hécube, la mère d'Hector, dont j'ai pu admirer au fil des ans le cœur et le courage.
« Pourquoi as-tu quitté le combat, sinon pour prier les dieux ?»«
C'est à toi d'aller les prier, »
rétorqua Hector. Son casque était posé à ses côtés sur son siège. Le guerrier était bien sale, en effet. Son visage était souillé d'une épaisse couche de crasse et de sang que sa sueur avait transformé en un masque de boue rougeâtre. Et son attitude traduisait un épuisement total, les bras sur les cuisses, la tête basse, la voix éteinte.
« Va-t'en au temple d'Athénée, » reprit-il. « Rassemble les plus nobles d'entre les Troyennes et prends la plus belle, la plus grande des robes que tu trouveras en ton palais. Dépose-la sur les genoux de la statue dorée d'Athénée. » Et fais vœu de lui immoler dans son temple 12 génisses d'un an si elle prend pitié de Troie. Demande à la sinistre déesse d'épargner notre ville, et les épouses des Troyens et leurs enfants, de les préserver du terrible Diomède.
Nous en sommes donc là, murmura Hécube en s'emparant de l'une de ses mains sanglantes. Nous en sommes donc arrivés là?
Oui, fit Hector.
Il se leva péniblement, reprit son casque et sortit. En compagnie des 3 autres guerriers, j'ai suivi le héros épuisé, tandis qu'il se dirigeait vers la demeure de Paris et d'Hélène, un complexe résidentiel avec terrasse, tours et patio privés. Écartant de son passage gardes et domestiques, Hector monta les marches 4 à 4 et ouvrit brutalement la porte des appartements privés de Paris et d'Hélène. Je m'attendais à trouver Paris au lit avec sa captive. À en croire Homère, tous deux n'avaient pas perdu une minute lorsque Paris avait été attaché à son combat contre Ménélas quelques heures plus tôt. Mais le frère d'Hector était occupé à fourbir ses armes, tandis qu'Hélène, assise non loin de là, supervisait les travaux de broderie de ses servantes.
« Qu'est-ce que tu fous là ?»
gronda Hector.
« À rester enfermé dans ta chambre comme une femme ou comme un enfant géniard, à jouer avec ton armure pendant que les hommes de Troie, les vrais, meurent par centaines !» pendant que l'ennemi se masse autour de la citadelle et nous assourdit de ses cris de guerre. Lève-toi, espèce de déserteur,
Lève-toi si tu ne veux pas voir Troie s'embraser autour de ton cul de couard.
Au lieu de se lever d'un bond et de manifester son indignation, le royal Paris se contenta de sourire.
« Ah, Hector, tu as raison de me maudire. Tout ce que tu dis est juste.
Alors, remue ton cul et mets ton armure, » ordonna Hector.
Mais toute colère l'avait quitté, qu'il ait succombé à la lassitude ou rendu les armes devant la passivité de Paris.
« C'est ce que je vais faire, » dit ce dernier. « Mais écoute-moi d'abord. J'ai quelque chose à te dire. »
Hector resta silencieux, vacilla légèrement sur ses pieds chaussés de sandales. Il tenait son casque calé sous le bras gauche et serrait dans sa main droite une javeline empruntée au sergent commandant notre petit détachement. C'est parce qu'il s'appuyait sur elle qu'il tenait encore debout.
« Si je suis resté dans mes appartements, ce n'est ni par colère ni par dépit,
désignant Hélène et sa domesticité comme s'il s'agissait de meubles.
C'est par chagrin. »
« Par chagrin ?» répéta Hector sur un ton méprisant.
« En effet, » dit Paris.
« Par chagrin à l'idée de ma propre couardise. Bien que ce soit par la volonté des dieux et non par la mienne que j'ai fui le combat m'opposant à Ménélas.
Et à l'idée du sort qui attend notre cité.
Ce sort n'est pas gravé dans la pierre, » rétorqua sèchement Hector.
Nous pouvons repousser Diomède et ses belliqueux acolytes. Mets ton armure. Suis-moi sur le champ de bataille. Le soir ne tombera que dans une heure. Nous pouvons tuer quantité de Grecs à la lueur sanglante du couchant, et encore davantage au crépuscule.
Paris sourit à ces mots et se leva.
Tu as raison.
Je suis le plus grand amant du monde et non son plus grand guerrier, mais la bataille me semble désormais préférable. Le destin comme la victoire sont changeants, sais-tu, Hector? Ils vont de ci, de là, telle une phalange de guerriers sans armure sous une volée de flèches.
Hector coiffa son casque et attendit en silence, doutant visiblement des intentions de Paris.
« Pars, » dit celui-ci. « J'enfile mon armure de guerre. » Pars, et je te rejoindrai. »
Hector continua d'observer un mutisme absolu, bien décidé, semblait-il, à ne pas partir sans Paris. Mais la belle Hélène, oh, comme elle était belle, quitta son siège, se dirigea vers lui et posa une main sur son épaule maculée de sang. Ses sandales chuchotaient sur le sol de marbre frais.
« Mon cher ami, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, « mon cher frère, cher à mon cœur, moi, salope que je suis, punaise, vicieuse, horrible femelle à vous glacer les sangs. Pourquoi donc, le jour où m'enfantait ma mère, n'ai-je pas été noyée dans la mer Ionienne avant que d'être la cause de tout cela ? »
Elle s'effondra, se prit la tête dans les mains et se mit à pleurer. Le noble Hector Tica leva sa main libre comme pour lui caresser les cheveux, la retira en hâte et s'éclaircit la gorge en signe de gêne. À l'instar de main héros, le grand Hector se montrait plutôt empoté en présence des femmes, exception faite de son épouse légitime. Avant qu'il ait pu s'exprimer, Hélène reprit la parole, hoquetant entre deux sanglots.
« Alors, noble Hector, si les dieux m'ont bien réservé ces terribles années de sang, pourquoi ne suis-je pas la femme d'un brave, d'un guerrier plutôt que d'un amant, d'un homme capable de se sacrifier pour sa ville au lieu de passer en coucherie le long crépuscule de son anéantissement ?»
Paris esquissa un pas vers Hélène comme pour la souffleter, mais la présence d'Hector le retint. Nous quatre, qui montions la garde le long du mur, regardions le vide et faisions semblant d'être sourds. Hélène se tourna vers Paris. Elle avait les yeux rougis et mouillés de larmes. Elle continua de s'adresser à Hector comme si Paris, son ravisseur, son second mari à titre putatif, ne se trouvait pas dans la pièce.
« Celui-là a mérité le mépris des vrais hommes. Il n'a nulle fermeté, nulle volonté. Jamais il n'en aura. »
Paris battit des cils et ses joues s'empourprèrent comme si on l'avait giflé.
S'il récoltera les fruits de sa couardise, Hector !»
poursuivit Hélène, crachant littéralement ses paroles et maculant le sol de ses postillons.
« Je te jure qu'il récoltera les fruits de sa faiblesse. Par les dieux, j'en fais le serment !»
Paris vida les lieux d'un pas courroucé. Hélène fit face au guerrier souillé de boue et de sang.
« Mais prends un siège et repose-toi un moment à mes côtés, cher frère. C'est toi qui souffres le plus de ces combats. Des combats menés au nom de la chienne que je suis. »
Elle s'assit sur sa couche et tapota la place à côté d'elle.
« Nous sommes tous deux liés par un même destin, Hector. Zeus a planté dans notre cœur la graine d'un million de morts, de la fin de notre ère. Mais nous vivrons, toi et moi, dans les champs d'un millier de générations. »
Comme s'il refusait d'en entendre davantage, Hector tourna les talons et s'en fut, coiffant son casque dont le cimier étincela sous les rayons obliques du couchant. Jetant un dernier coup d'œil à Hélène qui restait assise, la tête basse sur la couche rembourrée, savourant du regard la perfection de ses bras pâles et la douceur de ses seins visibles à travers le tissu de sa robe, j'ai levé ma lance, la lance de Dolon l'éclaireur, et j'ai suivi Hector et ses trois loyaux lanciers. Il est important que je dise les choses ainsi. Hélène s'étire, murmure mon nom, mais se rendort. Mon nom. Elle murmure Hockenberry. Et c'est comme si on me poignardait en plein cœur. Et tandis que je m'alanguis auprès de la plus belle femme du monde antique, peut-être la plus belle de l'histoire, ou à tout le moins, celle au nom duquel la mort a fauché le plus grand nombre d'hommes, voilà que me reviennent de nouveaux éléments de ma vie. De ma vie antérieure, de ma vie réelle. J'étais marié. Mon épouse s'appelait Suzanne. Nous nous sommes rencontrés alors que nous poursuivions des études au Boston College et épousés peu après l'obtention de notre diplôme. Suzanne était conseillère d'éducation dans le secondaire, mais elle avait plus ou moins cessé d'exercer après notre déménagement dans l'Indiana, où j'ai commencé à enseigner les humanités à l'université en 1972. Nous n'avions pas d'enfants, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. Suzanne vivait encore lorsque j'ai dû être hospitalisé pour un cancer du foie. Au nom de Dieu, pourquoi faut-il que je me souvienne de cela maintenant ? Après 9 ans d'amnésie quasi totale, pourquoi faut-il que ce soit maintenant que je me remémore Suzanne? Pourquoi faut-il que ce soit maintenant que les souffrances de mon autre vie se rappellent à moi? Je ne crois pas en Dieu avec un D majuscule. Et en dépit de leur présence bien concrète, je ne crois pas au Dieu avec un D minuscule. Pas en tant que force mouvant l'univers. Mais je crois en la déesse Ironie, cette salope. Elle est intemporelle. Elle règne sur l'homme, sur les dieux et sur Dieu lui-même. Et elle a un sens de l'humour des plus pervers. Pareil à Roméo couché auprès de Juliette, j'entends le tonnerre venir à nous depuis le sud-ouest, son écho qui résonne dans la cour. Je sens le vent qui fait frémir les rideaux des deux balcons de la grande chambre. Hélène s'étire, mais ne se réveille point. Pas encore. Je ferme les yeux et feins de dormir quelques minutes encore. Mes paupières me paraissent grenues, comme si j'avais du sable dessous. Je deviens trop vieux pour rester éveillé aussi longtemps, en particulier après avoir fait l'amour à 3 reprises avec la femme la plus belle et la plus sensuelle du monde. Après avoir pris congé d'Hélène et de Paris, nous avons suivi Hector dans sa demeure. Ce héros, qui jamais ou presque n'avait fui le combat, fuyait la tentation que représentait Hélène pour se réfugier auprès de son épouse Andromaque et de leur fils âgé d'un an à peine. Durant les 9 ans que j'avais passé à explorer et à observer Ilium, pas une fois je n'avais parlé à l'épouse d'Hector, mais je connaissais bien son histoire. Tous à Ilium la connaissaient. Andromaque était une femme très belle. Certes, elle n'arrivait pas à la cheville d'Hélène, ni à celle des déesses, mais elle était belle de par son humanité même, et en outre de sang royal. Elle était originaire de la ville de Thèbes, en Cilicie, et son père et Éthion, roi de ce pays, étaient admirés et respectés de tous. Leur petit palais se trouvait sur les contreforts du mont Placos, dans une forêt réputée pour son bois. Les portes C étaient faites de ce bois cilicien, comme toutes les machines de guerre qui se dressaient derrière les lignes grecques, à moins de 3 kilomètres de là. Achille avait tué Éthion au combat, le terrassant lorsque l'Achéen, tueur d'hommes aux pieds agiles, avait conduit l'offensive contre les cités de la Troade peu de temps après le débarquement des forces grecques. Andromaque avait 7 frères, tous bergers ou bouviers plutôt que guerriers. Et Achille les avait tous oxy le même jour, les dénichant dans leurs prés et les poursuivant jusque dans les collines rocheuses que dominait la forêt. De toute évidence, son intention était d'éliminer tous les représentants mâles de la famille royale cilicienne. Ce soir-là, Achille avait ordonné à ses hommes d'habiller de son armure le cadavre d'Éthion, et il avait incinéré celui-ci avec le plus grand respect, édifiant un tumulus autour de ses cendres. Mais les frères d'Andromaque avaient été abandonnés aux loups sur les lieux mêmes de leur mort. Quoique riche du pillage d'une douzaine de cités, Achille avait néanmoins exigé une rançon royale pour la reine, la mère d'Andromaque, et il l'avait obtenue. Ilium était riche, elle aussi, et libre de barguigner avec les envahisseurs. La mère d'Andromaque avait regagné les salles vides de son palais cilicien et, à en croire le récit qu'Andromaque faisait de ses épreuves, Artémis la Sagittaire la vint frapper au manoir de son père. Enfin, c'est une façon de parler. Artémis, fille de Zeus et de Leto, sœur d'Apollon, est la déesse de la chasse. Je l'ai vue à Olympos pas plus tard qu'hier. Mais c'est aussi la déesse présidant à l'enfantement. Dans un passage de l'Iliade, un Apollon furibond engueule sa sœur en présence de leur père Zeus. Il te laisse tuer des mères en couche, ce qui signifie qu'Artémis peut dispenser la mort durant l'enfantement, tout en servant de sage-femme divine aux mortels. La mère d'Andromaque est morte 9 mois après avoir été ravie par Achille le jour de la mort d'Éthion, le père d'Andromaque. Et elle est morte en couche, alors qu'elle s'efforçait de donner le jour au fils de l'assassin de son époux. Venez me dire après ça que ce n'est pas cette salope d'ironie qui règne sur le monde. Andromaque et leur bébé n'étaient pas chez eux. Hector fouilla la demeure de fond en comble, pendant que les loyaux guerriers que nous étions se tenaient en retrait au garde-à-vous devant la porte. De toute évidence, le héros était inquiet, et son angoisse était plus apparente qu'elle ne l'avait jamais été sur le champ de bataille. De retour sur le seuil, il aperçut 2 servantes qui s'en revenaient et les arrêta.
« Où est Andromaque ? S'est-elle rendue dans le temple d'Athénée, rejoindre les autres nobles troyennes, dans la demeure de ma sœur ? En visite chez les épouses de mon frère ?»«
Notre maîtresse est allée sur le grand rempart, maître, » répondit la plus âgée des servantes. Toutes les femmes de Troie ont appris que les combats d'aujourd'hui avaient été terribles, que la furie de Diomède avait renversé le cours de la guerre en défaveur des fils d'Ilium. Ton épouse est montée au sommet de la haute tour de Troie pour voir si son seigneur et époux étaient encore en vie. Elle courait comme une folle, maître, suivie de la nourrice qui portait ton fils.
Hector a failli nous laisser sur place lorsqu'il a foncé vers les portes C, et je me suis rendu compte, à l'approche de notre destination, qu'il ne fallait pas que je reste à ses côtés.
La scène qui s'annonçait, le dialogue d'Hector et d'Andromaque sur les remparts, était d'une importance capitale. Les dieux y assisteraient en masse. La muse risquait de venir m'y dénicher. Arrivé à quelques centaines de mètres des portes, je me suis laissé distancer par les 3 autres lanciers, me perdant au sein de la foule dans une ruelle. Les ombres se creusaient, l'air se rafraîchissait, mais le soleil sombrant à l'ouest éclairait encore les tours d'Ilium. Sélectionnant l'une d'entre elles, j'ai gravi son sinueux escalier intérieur pour gagner son sommet, toujours revêtu de l'apparence de l'éclaireur d'Olon. Cette tour ressemblait un peu à un minaret, bien que l'islam appartint encore à un futur relativement lointain, et j'étais seul lorsque j'ai émergé sur son étroit balcon circulaire. Le soleil me frappait en plein visage, mais il m'a suffi de polariser mes filtres visuels et d'augmenter la focale de mes lentilles divines pour avoir une vue imprenable sur les retrouvailles des 2 époux.
Andromaque descendit en hâte des remparts dès qu'elle aperçut Hector, agita les pieds lorsqu'il la souleva dans les airs et la serra contre lui. Son casque poli accrochait la chaude lumière vespérale. Les soldats et les épouses inquiètes qui se pressaient là s'écartèrent afin que leur chef et sa femme aient un peu d'intimité. Seule la nourrice qui tenait leur fils âgé d'un an resta à proximité. J'aurais pu écouter leur conversation grâce à mon micro-directionnel, mais j'ai décidé de me contenter de les regarder, étudiant leurs expressions et le mouvement de leurs lèvres. Après s'être montré soulagé de découvrir que son guerrier d'époux était sain et sauf, Andromaque plissa le front et prit la parole, adoptant un débit précipité. Grâce à Homer, j'avais une idée approximative de son discours. Elle ressassait ses malheurs, décrivait la solitude dont elle avait souffert après qu'Achille eût tué son père et ses frères. Comme j'arrivais à lire sur ses lèvres, j'ai su qu'elle disait « C'est toi qui es mon père désormais, Hector, ainsi que ma digne mère. Pour moi, tu es un frère, mon amour. Et tu es aussi mon époux, jeune, chaud, viril, vivant. Prends pitié de moi, mon époux. Ne m'abandonne point. Ne retourne pas dans la plaine d'Ilium pour y périr et voir ton corps traîné par un char achéen jusqu'à ce que tes chairs soient arrachées à tes os. Reste ici. Combat ici. Protège notre cité en te battant sur ses remparts. Ici. » « Je ne peux pas, » dit Hector secouant la tête et faisant étinceler son casque. « Tu le peux, » répliqua Andromaque, dont l'expression était déchirée entre l'amour et la douleur. « Tu le dois. Rassemble donc ton armée près de ce figuier, le vois-tu ? C'est là que notre Ilium bien-aimé est la plus vulnérable à leurs attaques. Par trois fois les Argiens y ont donné l'assaut, par trois fois conduits par leurs meilleurs guerriers, les deux Ajax, le grand et le petit, et Idoménée et le terrible Diomède. Peut-être qu'un prophète leur a montré cette faille dans nos défenses. Bats-toi ici, mon époux. Protège-nous ici. Je ne peux pas. Tu le peux, s'écria Andromaque en s'arrachant à son étreinte. Mais tu ne le veux pas. Oui, admit Hector sous mes yeux, je ne le veux pas. Sais-tu ce qu'il adviendra de moi, noble Hector, le jour où tu mourras de ta belle mort pour aller nourrir les chiens achéens? Hector grimaça, mais resta muet. Je serai ravi par un chef grec puant qui fera de moi sa putain, hurla Andromaque si fort que je l'entendis depuis mon poste d'observation. Emporté à Argos comme un vulgaire butin, esclave d'Ajax, le grand ou le petit, ou du terrible Diomède, voire d'un subalterne qui pourra me foutre quand l'envie lui en prendra. Oui, fit Hector, impassible malgré la peine qu'il habitait, mais je serai mort, et la terre au-dessus de moi étouffera tes cris. Oui, oh oui, glapit Andromaque qui pleurait et riait tout à la fois. Le noble Hector sera mort, et son fils, que tous les citoyens d'Ilium appellent Astyanax, le maître de la ville, sera réduit en esclavage par ses porcs d'Achéens, vendu en même temps que sa putain de mère. Voici quel sera ton héritage, ô noble Hector. Andromaque appela alors la nourrice et s'empara de son enfant, le brandissant, tel un bouclier, s'interposant entre Hector et elle. Je perçus alors la souffrance qui habitait Hector. Mais il tendit les bras au petit enfant. « Viens, Scamandrios, » dit-il, lui donnant le nom qui était le sien plutôt que le sobriquet dont l'affublaient les Troyens. L'enfant grimaça et se mit à pleurer. J'entendais ses cris depuis ma tour, pourtant séparé du rempart par une douzaine d'édifices. C'était le casque d'Hector. Sur sa surface de bronze soigneusement briquée, maculée de sang et de crasse, l'enfanson voyait refléter l'éclat du soleil, le parapet distordu et sa propre image. Un casque au panache couleur de flamme, à la monstrueuse visière métallique, conçue pour protéger les yeux et le nez d'Hector. L'enfant hurla et s'accrocha au sein de sa mère, terrifié par son père. On aurait pu s'attendre à voir Hector s'effondrer en un tel instant. Quoi, son fils chéri refusant de l'embrasser? Mais le guerrier s'esclaffa, puis rejeta la tête en arrière pour partir d'un long rire tonitruant. Au bout d'une minute, Andromaque en fit autant. Hector se débarrassa de son casque, le posant sur le parapet où le soleil le fit briller de mille feux. Puis il s'empara de son fils, le serra contre son torse, le jeta dans les airs et le rattrapa jusqu'à ce que ses cris traduisent le plaisir et non la terreur. Puis, tenant son fils bien calé au creux de son bras droit, Hector attira Andromaque contre lui avec le gauche. Sans cesser de sourire, il tourna son visage vers le ciel.
« Zeus, entends-moi, vous tous les immortels, entendez-moi !» Sur le rempart, les guerriers comme les femmes observaient un silence total. Le calme se fit dans les rues agitées. En dépit de la distance qui nous séparait, j'entendais haut et clair la voix d'Hector.
« Permettez que mon fils, qui me ravit, devienne mon égal. Qu'il soit le premier parmi les Troyens, le premier parmi les hommes. Qu'il soit aussi fort, aussi courageux que moi, Hector, son père. Veuillez, ô Dieu, que Scamandrios, fils d'Hector, règne un jour sur Ilium, dans la puissance et la gloire. Et que tous disent de lui, il est encore plus vaillant que son père. Telle est la prière que je vous adresse, ô Dieu. Et je ne vous demande aucune autre faveur. »
Et cela dit, Hector rendit l'enfant à Andromaque, les embrassa tous les deux, et retourna au combat. Les heures qui suivirent les adieux d'Hector à son épouse ne furent pas très gaies pour moi, je l'avoue. Mon humeur était d'autant plus sombre que je savais que, durant l'année à venir, Andromaque serait chassé de la ville en flammes et deviendrait un esclave de prix que se disputeraient les hommes. Sans compter que l'Achéen qui la capturerait, Pyrrhos, futur fondateur du royaume d'Épire, qui aurait droit à un mausolée de héros à Delphes, arracherait Scamandrios, fils d'Hector, que les habitants d'Ilium surnommaient Astyanax, le maître de la ville, au sein de sa nourrice, pour le jeter du haut des remparts de la cité. Le même Pyrrhos devait tuer Priam, père d'Hector et de Paris, dans son propre palais, devant l'autel consacré à Zeus. En l'espace d'une nuit, la maison de Priam cesserait d'exister. De quoi vous plonger dans la dépression. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait ensuite, mais peut-être cela l'explique-t-il en partie. J'ai erré dans les rues d'Ilium jusque bien après la tombée de la nuit, me sentant plus seul et plus déprimé qu'en 9 ans de scolie. Je n'étais plus Morphée en Dolon, mais j'étais toujours déguisé en fantassin troyen, prêt à coiffer mon casque d'Hadès et à saisir mon médaillon têtu à la première alerte. Et je me suis bientôt retrouvé non loin de la demeure d'Hélène. J'étais souvent venu dans les parages au fil des ans, je le confesse, rognant sur le temps que j'aurais dû consacrer à mon travail, gagnant en secret ce quartier de la ville dans l'espoir de la voir. Hélène, la femme la plus belle, la plus séduisante du monde. Combien de fois étais-je resté planté là, pareil à un adolescent transi d'amour, attendant que les lumières s'allument aux étages supérieurs, espérant contre tout espoir ne fût-ce qu'apercevoir cette femme. Soudain, un spectacle à glacer les sangs vint fracasser ma songerie. Un char survolant à faible allure les rues et les toits, dissimulé aux yeux des mortels mais parfaitement visible aux miens. La personne qui le pilotait et qui fouillait les lieux du regard n'était autre que ma muse. Jamais je ne l'avais vue voler aussi bas au-dessus de la ville ou de la plaine. C'était moi qu'elle cherchait, je le savais. J'ai aussitôt coiffé le casque d'Hadès, me dissimulant au regard des dieux comme des hommes. Du moins, l'espérais-je. Apparemment, la technologie a fonctionné. Le char de la muse est passé moins de 30 mètres au-dessus de moi sans même ralentir. Lorsqu'il a filé vers l'est pour aller rôder au-dessus de la place du marché, j'ai activé les commandes de mon harnais de lévitation. Tous les scoliastes sont équipés d'un tel harnais, mais nous ne l'utilisons que rarement. Il m'arrivait parfois de survoler grâce à lui le champ de bataille pour avoir une vue d'ensemble de la situation tactique à l'issue d'une journée de combat douteux, puis je retournais à Ilium pour rôder devant la demeure d'Hélène, avouons-le franchement, m'accordant quelques minutes de répit avant de regagner Olympos et mon baraquement. Il n'en était pas question aujourd'hui. Je me suis élevé au-dessus des rues, invisible aux yeux des gardes en faction devant le domicile de Paris et d'Hélène, et j'ai atterri sur l'un des balcons dominant la cour intérieure, juste à côté des appartements privés du couple. Le cœur battant, j'ai écarté les rideaux pour franchir le seuil. Mes sandales ne faisaient quasiment aucun bruit sur le sol dallé de pierre. Les chiens de la maisonnée auraient pu me détecter, Le casque d'Hadès ne me protégeait pas de leurs flairs, mais ils se trouvaient tous au rez-de-chaussée et dans la cour extérieure, loin des appartements du couple princier. Hélène prenait un bain. Trois servantes l'assistaient, et leurs pieds nus laissaient des sillages d'eau tandis qu'elle s'affairait à alimenter le bassin en eau chaude. Des voiles de gaz entouraient celui-ci, mais comme lanterne et brasero peuplaient l'espace qu'il délimitait, il ne dissimulait rien du tout à mes yeux. Toujours invisible, je me suis arrêté devant cette barrière de tissu vaporeux pour contempler Hélène au bain. « Voici donc les nichons qui ont lancé mille nefs, » songeai-je, me reprochant aussitôt cette facilité. « Vous la décrirai-je ? Vous expliquerai-je pourquoi sa beauté incendiaire, sa beauté toute nue, émouvait encore les hommes au bout de 3000 ans ? Je ne crois pas, et ce n'est pas par pudeur ni par respect. La beauté d'Hélène transcende mon humble talent d'écrivain. Quand on a vu tant et tant de saints, qu'est-ce que ceux d'Hélène, si pleins, si doux, ont d'unique ? En quoi le duvet noir entre ses cuisses est-il plus parfait que tous les autres ? En quoi ses cuisses pâles et fuselées sont-elles plus excitantes ? En quoi ses fesses rondes, laiteuses, son dos altier, ses épaules délicates, sont-ils plus envoûtants que d'autres ? Ces questions ont bien entendu une réponse. Mais ce n'est pas moi qui vous la donnerai. Je n'étais qu'un humble lettré qui, dans une autre vie, avait rêvé de devenir romancier. Pour rendre justice à la beauté d'Hélène, il aurait fallu un génie du calibre d'Homère, de Dante, voire de Shakespeare. Quittant la salle de bain pour émerger dans la fraîcheur d'une terrasse, j'ai palpé le fin bracelet grâce auquel je pouvais prendre la forme de mon choix. Le panneau de contrôle de ce bracelet se contentait de luire lorsque je l'ouvrais, mais il communiquait avec mon pouce au moyen de symboles et d'images. Il contenait les données afférentes à tous les hommes que j'avais enregistrés durant les 9 dernières années. En théorie, j'aurais pu me morpher en femme, mais jamais je n'avais eu de raison de le faire et je n'allais certainement pas en trouver une ce soir-là. Il faut que vous sachiez une chose à propos de ce processus. Se morpher ne signifie pas imposer une autre forme à ses molécules ni à celle de ses vêtements et de ses armes. J'ignore tous des détails techniques, bien qu'un scoliaste nommé Hayakawa, originaire du XXIe siècle et dont la seconde vie avait été des plus brèves, ait tenté de m'expliquer sa théorie 5 ou 6 ans auparavant. Il insistait beaucoup sur la conservation de la matière et de l'énergie. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Mais je n'ai guère prêté attention à cet aspect des choses. De toute évidence, le morphing opère au niveau quantique. Rien d'extraordinaire chez ces dieux-là. Hayakawa m'a demandé d'imaginer que tous les humains présents dans la région, y compris lui et moi, étions des ondes de probabilité. Au niveau quantique, expliquait-il, un être humain, comme tout élément de l'univers physique, existe d'un instant à l'autre en tant que front d'onde en voie d'effondrement. Il en va ainsi des molécules, de la mémoire, des vieilles cicatrices, des émotions, des moustaches, de la mauvaise haleine, bref, de tout. Les bracelets que nous ont donnés les dieux nous fournissent des copies de ces ondes de probabilité et nous permettent de stocker les originaux pendant que nous en interrompons le cours, fusionnant un temps nos ondes de probabilité avec les leurs, imposant notre volonté et nos souvenirs à un autre corps que le nôtre. Quant à savoir pourquoi ce processus ne violait pas cette fameuse conservation de la matière et de l'énergie, je n'en ai aucune idée. Mais c'était ce que soutenait Hayakawa. C'est parce que en nous morphant, nous usurpons la forme et les actes d'un tiers, que les scoliastes que nous sommes choisissent toujours des personnages mineurs de cette épopée, des hallebardiers, des figurants, à l'instar de Dolon mentionné plus haut. Si l'un de nous devait devenir Odysseus, par exemple, ou Hector, ou Achille, ou Agamemnon, il prendrait l'aspect de l'intéressé, mais garderait son propre caractère, bien moins affirmé que celui du héros qu'il remplace. De sorte que les événements, sous son impulsion, ne manqueraient pas de s'écarter de la présente réalité, c'est-à-dire de l'Iliade. J'ignore où allait l'original lorsque nous prenions son apparence. Peut-être que son onde de probabilité flottait à proximité au niveau quantique,
ayant suspendu son effondrement dans ce que nous appelions la réalité, jusqu'à ce que nous en ayons fini avec lui. Peut-être que cette onde de probabilité était stockée dans notre bracelet, dans une machine quelconque ou dans une micro-puce divine sur le mont Olympe. Je n'en sais rien et je m'en fiche. Un jour, peu avant qu'Ayakawa ne disparaisse pour avoir déplu à la muse, je lui ai demandé si nous pouvions prendre la place d'un dieu. Il m'a répondu en riant, « Les dieux protègent leurs ondes de probabilité, Oakenberry. À votre place, je ne me risquerai pas à les embêter. » J'ai actionné le bracelet et parcouru les centaines d'hommes que j'avais enregistrés jusqu'à ce que j'ai trouvé celui que je cherchais. Paris. Ma muse aurait fort probablement mis un terme à mon existence si elle avait découvert que Paris figurait dans mon catalogue personnel. Pas d'interférence de la part des scoliastes. Où est Paris en ce moment? Le pouce au-dessus de l'icône d'activation, j'ai fouillé dans ma mémoire. Les événements de cet après-midi et de ce soir, la confrontation entre Hector, Paris et Hélène, la rencontre d'Hector avec sa femme et son fils sur les remparts, se produisaient à la fin du chant 6 de l'Iliade, n'est-ce pas? Impossible de réfléchir. La solitude me serrait le cœur. J'avais la tête qui tournait, comme si j'avais passé l'après-midi à me saouler. Oui, la fin du chant 6. Hector prend congé d'Andromaque et Paris le rejoint avant qu'il quitte la ville. Comment le formulait l'une de mes traductions préférées? Mais Paris ne s'attarde point dans ses hautes demeures. Fidèle à sa parole, le nouvel époux d'Hélène avait passé son armure pour rejoindre son frère, et tous deux étaient sortis de la ville par les portes C pour plonger dans la bataille. Je me rappelais avoir rédigé une communication érudite dans laquelle j'analysais la métaphore d'Homère, qui comparait Paris à un étalon rompant ses liens, fier de sa beauté, avec ses crins flottants épars sur ses épaules, impatient d'en découdre et blablabla. Où est Paris à présent que la nuit est tombée? Qu'est-ce que j'ai raté pendant que j'errais dans les rues et reluquais la maison d'Hélène, les nichons d'Hélène? La réponse se trouvait dans le chant 7, que j'avais toujours considéré comme un vrai foutoir. Pour clore cette journée qui avait commencé dans le chant 2, Paris tuait Ménestios l'Achéen pendant qu'Hector plantait sa lance dans la gorge des Ionées. Autant pour le mari et le père aimant. Puis la bataille faisait rage. Hector affrontait Ajax le Grand en combat singulier et ensuite... Pas grand-chose. Ajax prend le dessus, c'est lui le plus fort. Mais les dieux se querellent une nouvelle fois, Grecs et Troyens se mettent à palabrer, à fanfaronner comme à leur habitude, on déclare une trêve, et Hector et Ajax échangent leurs armures, devenant soudain les meilleurs amis du monde, puis tous conviennent que la trêve se prolongera jusqu'à ce qu'on ait ramassé tous les cadavres pour alimenter les bûchers funèbres et... Que diable va faire Paris cette nuit ? Va-t-il rester avec Hector pour superviser la trêve et prendre la parole lors du rituel funèbre? Ou regagne-t-il le lit d'Hélène, comme on pourrait s'y attendre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? M'exclamai-je en activant le bracelet, adoptant la forme et l'apparence de Paris. J'étais toujours invisible, coiffé du casque d'Hadès et engoncé dans le harnais de lévitation. J'ai ôté le casque et le reste de mon attirail, exception faite du bracelet et du médaillon TQ passé autour de mon cou, le planquant derrière un trépied dans un coin du balcon. J'étais à présent Paris, en tenue de combat. J'ai enlevé l'armure et l'ai également posée sur le balcon, revêtant désormais l'aspect de Paris en tunique. Si la muse me tombait sur le rable, je n'avais pas d'autre choix que de me TQ dans un coin tranquille. J'ai gagné la salle de bain, écartant les rideaux pour quitter le balcon. Hélène a levé les yeux, surprise.
« Seigneur ?»
Comme elle prononçait ce mot, j'ai vu une lueur de défi dans ses yeux, qui a bien vite disparu lorsqu'elle a baissé la tête en signe de soumission, implorant sans nul doute le pardon pour son discours de tout à l'heure.
« Laissez-nous »
a-t-elle ordonné sèchement, et les servantes ont filé sans prendre le temps de s'essuyer les pieds. Hélène de Troie est lentement sortie du bassin pour se diriger vers moi, les cheveux secs, à l'exception des quelques longues mèches collées à ses omoplates et à sa poitrine. La tête toujours baissée, mais les yeux levés vers moi sous leurs longs cils.
« Que désires-tu de moi, mon époux ?
J'ai dû m'y reprendre à deux fois avant de trouver ma voie. Finalement, c'est celle de Paris qui a dit «
Viens te coucher ».